Malou Musique, quand la musique raconte nos vies. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui je vous parle en direct de Babel Musique XP 2026, ici à la Friche Label de Mai, en plein cœur du festival pour ce premier jour. Pendant 3 jours, Marseille devient un véritable hub des musiques du monde. Plus de 100 artistes, 27 pays, des concerts partout dans la ville et surtout une incroyable diversité de sons, de jazz aux traditions revisitées, de l'électro aux musiques hybrides, du hip-hop au chant du monde. Ici, on croise des artistes comme Enetesh Wassier, Myriam Koufi, Mehdi Adab, Celia Wa, Sonora Smil ou encore Jawar. Des artistes venus du monde entier qui font dialoguer les cultures et réinventent les traditions. Malou Musique, pendant ces 3 jours, vous emmène vers des rencontres, interviews, ambiances, récits. Un épisode en immersion au plus près de celles et ceux qui font vibrer ce festival. Un moment particulier aussi, nous sommes entre les deux tours des municipales dans une ville en mouvement. Et ici, la musique vient créer du lien, faire dialoguer les cultures et raconter le monde autrement. Alors installez-vous, ouvrez grand les oreilles. Bienvenue dans Malou Musique, en direct de Babel Musique XP 2026. Ça parle toutes les langues, ça échange, ça découvre et Malou Musique tend le micro à celles et ceux qui font vivre cette musique au présent. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on poursuit avec mon premier entretien professionnel, donc avec Sarah de la Maisonne à Marseille, qui va répondre donc à quelques questions assez impactantes donc dans le monde de la musique du monde. Alors Sarah, je te demande de te présenter et de présenter ta structure.
Donc Sarah Lepêtre, directrice programmatrice de la structure La Maisonne, qui est une salle de concert de proximité à Marseille, à la rue Consola. La Maisonne a différentes activités. C'est d'abord une salle de danse flamenco avec plus de 150 élèves qui viennent du lundi au jeudi. Une quarantaine de concerts en les murs. C'est une petite salle où on vit des choses souvent un peu uniques, des vraies rencontres. Beaucoup de résidences, de créations, de résidences d'artistes, de rencontres. Bien sûr, très ancrée dans son quartier. Et on a aussi de l'événementiel, où on travaille souvent en coopération, notamment avec le Théâtre de l'Œuvre pour Kiosque & Co sur la Canebière, et le au Large Festival au Théâtre Sylvain sur la Corniche à Marseille, où là, on passe d'une jauge de 70 à une jauge de 2000. C'est plus la même chose, mais on essaye de mettre exactement la même ambiance, le bon accueil, le bon son, le bon manger, etc., le bon vivre ensemble. Et on travaille aussi beaucoup... je suis présidente de l'association de la responsabilité des rêves qui a repris la gestion de l'espace Julien avec le Maqueda, Grand Bonheur, le Théâtre de l'Œuvre et la Maisonne.
Merci Sarah. Donc toutes ces structures en fait qui sont partenaires aussi du festival Babelmed XP. Donc moi la première question que j'ai envie de te poser c'est aujourd'hui quand tu regardes la scène des musiques du monde, parce que vous êtes quand même... programmateur de musique du monde, hein. Y a pas de hasard si je t'interview aussi. C'est qu'est-ce qui est en train de changer profondément selon toi ?
Alors bien sûr, les milieux et les milieux professionnels évoluent. La musique évolue. Mais tu vois, il y a une phrase que Gilles, qui est à la co-direction avec moi, dit souvent, c'est la musique, c'est la tradition en mouvement, tu vois. Et en fait, on puise toujours quelque part. Pour moi, les musiques du monde, ce sont les musiques. Les musiques actuelles s'inspirent, bien entendu, des musiques du monde. On a tous des cultures et on fait avec nos cultures. Donc pour moi, c'est les musiques où on met nos cultures dedans. Ce qui change profondément, bien sûr, ça évolue, mais... les inspirations vont peut-être vers d'autres endroits, d'autres créneaux. La jeunesse s'en empare aussi peut-être différemment aussi. Mais ça reste profondément ancré, l'ensemble des musiques du monde et du monde.
La musique sans frontières. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous fait, alors je dis vous, hein, pour ton binôme, continuer aujourd'hui à défendre ces musiques et ces artistes venus d'horizons différents?
Sans diversité, on n'est rien. Il y aurait plus de richesse. Il y aurait plus de sans échange, sans partage, sans inclusion, on serait pauvre. Découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres manières d'aborder la musique. Découvrir aussi la musique sous sa forme festive ou de méditation, c'est ultra passionnant. Donc bien sûr on tient, et quand on voit un concert, je sais pas si on peut dire les musiques du monde, mais quand on voit un concert même d'un solo dans un cadre comme la Maisonne, d'une culture en plus qu'on ne connaît pas ou que le public français ou européen ne connaît pas, il se passe des choses complètement magiques et ça nous ouvre complètement l'esprit et le partage. Et à la fin, quand le public sort de la salle ou rencontre l'artiste et qu'on voit ses yeux écarquillés, émerveillés, qui sourient et qui repartent en fait chargés d'émotions, de bonheur ou de force en tout cas, ça nous aide à tenir dans ce monde pas simple.
Je confirme. Est-ce qu'il y a un moment, maintenant par exemple, où tu te dis « Ok, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier ?»
Je me pose souvent la question. Pourquoi j'ai choisi ce métier pour être dans la précarité, pour être débordée, ne plus avoir de vie de famille? Donc forcément, oui, la question du sens revient régulièrement. Et on en parle d'ailleurs beaucoup. On travaille beaucoup en coopération avec tout le monde. Et c'est des moments comme ça, à Babelmed, où on peut aussi discuter de ces choses-là, du sens, de pourquoi on fait les choses, ou questionner nos pratiques, questionner nos envies, questionner les publics et tout ça. Et pourquoi je fais ce métier ? Parce que, ce que j'ai dit juste avant, il ne faut pas perdre le lien, jamais. Il faut discuter, il faut échanger, il faut confronter. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut garder le débat et qu'il soit apaisé. Et pour moi, la musique permet ça. C'est-à-dire qu'un public, d'où qu'il vienne, quoi qu'il vote, il vient en fait partager un moment de transe, de bonheur, de relâchement, qu'importe le voisin qu'on a à côté.
Complètement. La musique rassemble, la musique fédère, la musique parle à tous les cœurs. Écoute, Sarah, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à mes questions. Je reviens sur le lieu, la maison, qui est vraiment un lieu, c'est comme une maison en fait. Moi, je me suis sentie chez moi, je me sens chez moi. Il y a une très bonne cuisine aussi.
C'est Denise qui cuisine pour les artistes, pour le public, elle nous régale tous. Et oui, c'est important, partager un bon repas, ça réunit.
Absolument, on est toujours à la maison et aussi ce joli festival à venir. Au mois de juin, dans ce beau lieu à Marseille. Merci Sarah. On se souhaite un bon Babel Med XP et je pense qu'on se recroisera.
Vive Babel XP, vive les musiques et vive Marie-Lou.
Merci Sarah. Merci. À bientôt.
Dos teus olhos vejo o mundo em primavera, onde a felicidade aos molhos mais parece uma quimera. Na ternura dos teus olhos vejo outro mundo, outra era. Antevejo, bebo a loucura mais louca, mato a sede em longo beijo. No rubro da tua boca cai a onda do desejo. No teu corpo de cambraia devagar solto meus dedos e toda a vida desmaia nos teus ocultos enredos. No teu corpo de cambraia vou desvendando o segredo.
Nous avons changé de décor. Je me trouve actuellement à l'espace Julien, sur le cours Julien à Marseille, où je vais discuter avec l'ensemble du groupe. Alors, déjà, Etenech Wassier, c'est vous, c'est le nom du groupe, c'est votre nom.
C'est les deux, c'est le nom d'Etenech, c'est son nom, et c'est le nom du groupe aussi.
On dit de vous que vous êtes une aventurière, une voyageuse avec une forte personnalité. C'est quoi l'histoire derrière votre projet ? Alors Mathieu, vous êtes bassiste, vous vous êtes rencontré à Toulouse avec Etenech.
Moi je préfère raconter une histoire de musique, l'histoire de rencontre avec la musique éthiopienne, qui a été vraiment un flash pour nous. C'était lors d'une fête, comme par hasard, qu'une amie, pour mon anniversaire, m'avait offert un disque des Éthiopiques. Et on a mis ce disque-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique, d'où ça sort? Et après, on a cherché un petit peu, je travaillais avec Fabien déjà à l'époque, au sein du Tic des Platanes, Quartet Toulousain. Et on s'est dit, mais c'est quoi cette musique? D'où ça sort? On n'a jamais entendu ça nulle part ailleurs. En fait, on a fait un petit peu des recherches via la super collection Les Éthiopiques, chez Bouddha Musique. Et en fait, du coup, historiquement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'Éthiopie a été colonisée par l'Italie que pendant 5 ans, qu'ils ont réussi à les mettre dehors, et ils ont gardé des bons trucs. Ils ont gardé l'amour des chaussures, des pizzas, des percolateurs à café à l'époque, super café, tous leurs instruments. Donc des guitares électriques, des basses électriques, des orgues farfisa, des orgues pas possibles, des batteries, tout ça, tous les cuivres. Et en fait, ils ont eux gardé leur propre musique. Ils ont vraiment joué avec cette instrumentation nouvelle. Et ça a vraiment créé quelque chose d'absolument hyper étonnant, hyper épatant. Donc du coup, nous, on s'est intéressé un petit peu à cette musique. Et on a commencé à en reprendre un petit peu d'autres manières. On parle toute l'époque de Mulatu Astaghté, de l'Ethio Jazz, tout ça. Un petit peu la vague aussi de Broken Flower, le film de Jarmusch qui était sorti à l'époque, où ça surfait un petit peu sur une vague éthiopienne. Mais nous, on a toujours repris, donc du coup, au sein de ce groupe, le Tic des Platanes, cette musique à d'autres manières, comme on reprendrait n'importe quelle autre musique. Et en fait, c'est tombé un petit peu dans l'oreille du directeur artistique des Éthiopiques, justement, donc la boucle est bouclée, qui nous a fait venir en Éthiopie, qui nous a ouvert son disque dur et qui nous a fait découvrir énormément, enfin plein de musique. Et donc du coup, on est parti en Éthiopie, et c'est là que je passe le micro à Fabien qui va raconter la suite.
Donc on a fait une première tournée en Éthiopie qui a duré, je crois, 3 semaines. On était parti pour 15 jours et puis on s'est dit que on allait rester une semaine de plus parce que déjà on pensait pas qu'on y retournerait, enfin du moins pour ma part, ce qui s'avérait vraiment faux par la suite. À l'issue de cette tournée où en fait on était que tous les quatre et on présentait notre musique, on a joué dans plusieurs endroits. À l'issue de ça, en fait, Francis Falsetto nous a proposé de monter un projet avec des artistes ou un ou une artiste éthiopienne. Il nous a dit, si vous faites ça, je vous fais enregistrer un disque chez Bouddha Musique. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit qu'une voix, être 5, ça suffisait. Au début, évidemment, on avait des grandes idées, de grands orchestres, etc. Mais bon, d'un point de vue commercial, c'était plus utopique. Et donc, on est parti sur l'idée d'une chanteuse, d'un chanteur, on savait pas. Et Francis a commencé à nous montrer des vidéos de gens. Et on est tombé sur la vidéo des Ténèches. Voilà, et ça a été unanime pour nous. Quand on l'a vu, on a entendu sa voix, on a vu sa présence, comment elle était habillée. C'était un ensemble de choses. On a dit, c'est elle. Voilà. Et Ténèches est arrivé en 2016. 2006, pardon. Oh là là, je suis décalé de 10 ans. Voilà. Et là, on a... À l'époque, la personne qui travaillait avec nous, Sophie Bernard, avait en fait envoyé 2 disques. À des festivals, à des producteurs, etc. Un dans lequel on jouait, nous, des arrangements instrumentaux, et un dans lequel Ethenesh chantait des chansons traditionnelles. Et en fait, c'était, en gros, imaginer ce que ça peut donner la rencontre des deux. Voilà, et il y en a quelques-uns qui ont répondu présent, ce qui était assez, assez dingue. Ouais, c'est une autre époque, et voilà, et ça nous a permis d'avoir un peu des financements, de faire venir Ethenesh, de monter un programme, et ensuite on a commencé à tourner. Voilà, ça c'est le début de l'histoire.
Merci. Donc, des femmes, justement, dans le jazz, dans ce courant de jazz-là, il n'y en a pas beaucoup.
Plutôt de la musique traditionnelle.
Réinventée, voilà.
Réinventée, d'accord. Hein. Voilà. Mais, bon. C'est pas un jazz... c'est un peu comme ça qu'on vous a défini, mais c'est très bien de resituer votre musique.
C'est plus de la musique traditionnelle arrangée que du jazz.
L'éthiotrad, blues folk, très bien. Oh. Ça se rapproche plus de ça.
Même s'il y a un peu de jazz dedans.
Enfin, moi, je l'entends hein, quand même. Hein. Enfin, moi, j'entends. En fait, si vous voulez, c'est peut-être mon oreille, mais moi, je vous ai écouté et j'ai vraiment ressenti une discussion entre vous. C'est comme on peut, le retrouver dans ce. Je me trompe ou.
Tu parles l'amarique. Une histoire. Année le majeur magazine. Amesaknallah.
Merci. Donc, c'est la version de votre histoire. Alors, pardon, j'ai pas tout compris, mais c'est magnifique. Merci. Merci de l'avoir raconté avec votre langue. Et parce que c'est important. Voilà, vous faites. C'est important que vous puissiez la raconter. Donc, moi, ce que j'entends pour faire la transition, c'est que, il y a des racines, une mémoire profonde qui accompagne ce que vous créez, en fait. Et du coup, votre musique. Si c'était un lieu ou un paysage, ça serait quoi ?
Un désert rempli de fleurs.
C'est le monde des Ténèches. Okay. Ouais, elle raconte des histoires de son pays, des histoires d'amour de son pays. C'est l'Éthiopie. Pour moi, clairement, c'est l'Éthiopie. Dans la musique éthiopienne, il y a quatre modes. Voilà. C'est une échelle de notes. Différentes notes, voilà, comme une gamme. Voilà, il y a quatre gammes, on va dire. Et de temps en temps, le nom de cette gamme, par exemple en Bassel, définit aussi un paysage, aussi une région d'Éthiopie.
D'accord.
Et aussi un état, comme tes états, c'est comme le blues, quelque part. Voilà. Donc, c'est en fait le mode, il est. Le nom du mode exprime plusieurs choses. Un lieu, la musique. Et un état d'être.
Le chant, à travers le chant.
C'est Aratun Kenyitroch, Andan de Dekika, Kudulum, c'est Arm Lanchage. Sabati, troisième, le quatrième, Magena, ça, quatre modes, ça c'est bien, moderne, traditionnel, tout, majority, c'est la famille, tu vois, c'est peut-être rock, peut-être jazz, okay, là, okay. C'est juste quatre modes.
C'est les quatre piliers, en fait.
Ouais, c'est quatre modes, ouais.
Les quatre piliers que vous adaptez avec, ouais. Voilà, bon. On s'est compris, ok. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer ici à Marseille, dans ce contexte-là?
Marseille, ville cosmopolite, ouais. Festival très cosmopolite. Donc, on se sent à notre place.
Un album qui est sorti?
Il sort aujourd'hui, là, d'ailleurs.
Aujourd'hui.
C'est officiel, c'est aujourd'hui.
J'ai le scoop, alors.
Tout à fait. Arada.
Chouette. Ok, je suis bien contente.
Bon, bah écoutez, moi je suis vraiment ravie autour de cette table. Voilà, on se croira à la maison, dans une cuisine, d'avoir pu échanger avec vous. Ce soir, je serai là pour vous écouter. Et je vous remercie infiniment.
chaque tour.
Au gré de mes rencontres, donc on poursuit ces interviews professionnelles avec Fabien. Donc Fabien qui nous vient de Toulouse, et Fabien est le directeur d'un festival, alors que je connais de réputation, mais qui est très réputé bien évidemment, le festival Rio Loco de Toulouse. Donc on reste dans le sud parce que précédemment nous étions avec Sarah de la Maisonne à Marseille. Donc c'est bien, ça fait bien le pont. Alors Fabien, merci. Je t'ai cueilli grâce à Cindy pour un interview. Je vais te laisser te présenter, tu veux bien ?
Alors merci, bonjour. Alors je suis Fabien Lérisson. Donc je dirige le festival Rio Loco depuis 3 ans et demi. Et la particularité de ce festival, c'est qu'il est organisé par le métronome étant une salle de musique actuelle, ce qu'on appelle, alors dans notre jargon, c'est un peu compliqué, mais on appelle ça une SMAC. C'est une scène de musique actuelle labellisée par l'État. Voilà, au même titre qu'il y a les opéras, les scènes nationales ou les centres chorégraphiques nationaux, par exemple, il y a aussi, pour les musiques actuelles, ce qu'on appelle les SMAC. Donc, c'est la seule SMAC de Haute-Garonne.
Alors, qu'est-ce qui te fait, toi, continuer, même ton équipe, aujourd'hui, à défendre ces musiques et ces artistes venus d'horizons différents?
Ce qui est important pour nous, c'est de défendre la diversité musicale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trop tendance à écouter, à être, pour le grand public, à écouter un peu toujours les mêmes artistes, les mêmes musiques, alors que... La richesse de la musique, c'est inépuisable. Donc il faut donner la possibilité de faire découvrir, d'aller à leur rencontre et de construire un récit. C'est ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas un festival généraliste, mais un festival thématique. Donc chaque année, on construit une thématique, on propose une thématique et on construit un narratif pour amener le grand public à découvrir des musiques ou redécouvrir des artistes, des musiques, voilà, alors inexplorées ou... aux confins très très loin de nous, mais ou très proches, mais qu'on ne connaît pas. Et voilà, et ça c'est la particularité en tout cas de et la singularité de ce festival Rio Loco. Et rien que pour ça, c'est un sujet inépuisable. Voilà.
Quand tu regardes la scène des musiques du monde, qu'est-ce qui, selon toi, est en train de changer profondément?
Alors, ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. La musique qu'on défend, la musique, ces musiques-là, c'est des musiques qui vivent, qui sont pas... Alors, ce qu'on appelle, nous, c'est des musiques de patrimoine, mais qui continuent à vivre, à évoluer, à prendre un peu l'instantané du moment. Et donc, c'est des musiques qui sont très malléables. Et ce qui en fait sa richesse, c'est-à-dire qu'elles sont en perpétuelle évolution. Les musiques, ce qu'on appelle les musiques du monde, c'est les musiques... avec un point commun, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le patrimoine. C'est-à-dire qu'elles ont une histoire, elles ont des racines, elles sont portées par des cultures, par des rencontres, des personnalités. Mais la vraie particularité, c'est que... elles vivent, elles sont très vivantes. Voilà. C'est pas pour rien qu'on appelle ça, nous, lorsqu'on organise un concert, c'est du spectacle vivant. Mais ces musiques-là, elles participent, en tout cas, à rendre vivant ce matériau, voilà, qui est la composition, le jouer quelques notes, ensemble ou seul, voilà, avec des instruments qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, qui nous sont familiers. Et... voilà, c'est ce qui caractérise un peu ces musiques-là.
Qu'est-ce que des événements comme Babel Music XP permettent vraiment que les artistes ou les professionnels, toi en tant que professionnel, ne trouvent pas ailleurs?
Babel, c'est déjà à Marseille. À Marseille, c'est pas pour rien. Ce que représente Marseille, cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur la mer... ce carrefour culturel, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui la convention qui est dédiée aux musiques du monde en France soit à Marseille, que ça soit la plus importante d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et donc à partir du moment où c'est un carrefour et un croisement de toutes ces musiques, et de toutes ces cultures, Marseille. Donc il y a l'équivalent pour nous, notre profession, donc c'est le Babel. Et c'est vrai que c'est un rassemblement de professionnels, d'artistes. Alors toute la filière est présente, mais aussi la particularité, c'est que ça ne s'arrête pas aux musiques dites du monde. C'est vraiment ouvert sur, ce qu'on appelle, alors c'est encore une fois, c'est les mots de jargon, hein, mais ce qu'on appelle les musiques actuelles, les musiques contemporaines, les musiques d'aujourd'hui, vivantes. Et voilà, et donc c'est devenu un rendez-vous incontournable de la filière internationale, c'est-à-dire tout le travail des équipes d'Olivier et de Nathalie, c'est d'aller tisser des partenariats avec des organisations professionnelles ou des pays du monde entier pour justement faire circuler à la fois les artistes avec une programmation exigeante et aussi faire circuler les professionnels. Voilà. Car aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on a de moins en moins, ça c'est la particularité française, il y a moins en moins d'argent dans la culture, mais on se doit, et ça c'est l'avenir aussi de notre secteur, de travailler en mutualisation, de se rapprocher aussi, de monter des partenariats, et ça c'est la clé. Et pour cela, il faut des événements rassembleurs, fédérateurs, et où se rencontrent tous ces professionnels-là pour justement à terme organiser les plus beaux festivals ou les plus beaux concerts qui soient.
Ensemble, on va plus loin. Ouais, merci. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que la musique permet encore de créer aujourd'hui entre les gens et que d'autres espaces ne permettent plus de le faire ?
L'avantage de la musique, c'est que... on parle d'émotion. Ça nous touche instantanément et depuis toujours. Voilà. Depuis la nuit des temps, on parlait de musique patrimoniale. En fin de compte, il faut revenir aux sources de la musique. Le premier bruit ou la première source qui a été émise. Et c'est le début d'une grande aventure, mais qui ne s'arrêtera jamais. On parlait de cette musique, c'est la matière vivante qui s'adapte, qui facilite les échanges, les rencontres. Et c'est inépuisable. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ?
Tu as tout dit, voilà, c'est inépuisable. Et c'est dans le prolongement justement de cet art qui nous nourrit, cet art qui nous lie.
Et ça me renvoie à une phrase de Maurice Conté. Il me disait, la musique n'a pas d'odeur, la musique n'a pas de couleur. Et voilà, lui, il était toujours habillé en blanc. Et c'était un peu ce qu'il portait, cet artiste qui nous a quittés il y a quelques temps, mais qui reste une référence dans la musique africaine.
Fabien, merci. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir converser avec toi. Je te souhaite un très bon festival. Et à bientôt. Je pense qu'on va probablement se recroiser sur les 3 jours. Et à bientôt à Toulouse. Est-ce que tu veux nous donner les dates du prochain festival ?
Alors la prochaine édition, ce sera la 31e édition du Festival Rieux Locaux. C'est du 10 au 14 juin, donc sur la Prairie des Filtres. C'est un festival. La particularité, c'est au cœur de la ville de Toulouse. Sur un écrin de verdure qui est exceptionnel, peut-être un des plus beaux endroits pour organiser un festival. Et donc c'est 5 jours de musique et de voyage. C'est un espace de liberté hors du commun, une parenthèse comme ça enchantée. Et voilà, à très bientôt à Toulouse.
Merci Fabien, merci, à bientôt.
Wasa jarade umbara kafune jarade ay kala ketala ma kana malame kidangi so lalia kidangi so lalia Yeah.
kala ketala ma kana ma na me chanyande umbora nyari bubu chanyande umbala bilende wasanjarade umbora kafune jarade umbaya kala ketala ma kana ma na me Jouer ça, c'est vraiment lui Clément, c'est ça qu'il est en train de dire. Moi j'ai pas envie d'expliquer tout parce que je comprends pas le français, mais ça j'ai bien compris. Hey, Clément, oh, c'est moi-même Clément, c'est moi Clément, c'est moi.
Il y a des concerts qui te traversent. Et puis, il y a des rencontres qui t'emmènent ailleurs. Hier soir, j'ai découvert un duo qui m'a littéralement embarqué dans un voyage entre héritage et modernité, entre trance et délicatesse. D'un côté, une voix ancrée dans la grande tradition arabo-andalouse. De l'autre, un oud électrifié, libre, rebelle, presque indomptable. Ensemble, ils réinventent la nouba, ils font dialoguer les époques, les cultures, les sensations. Je suis avec Myriam Koufi et Mehdi Haddab.
Bonjour Marie-Louise.
Bonjour, bonjour.
Vous portez tous les deux une tradition très forte. C'est quoi aujourd'hui le lien intime que vous entretenez avec la musique? Cette musique arabo-andalouse,
eh ben, c'est le lien de la tradition qui traverse le temps. Donc elle est intemporelle pour moi. Ce que j'ai appris il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans est toujours d'actualité à partir du moment où je le revisite, où je réfléchis dessus, donc c'est jamais figé. Donc c'est tout à fait d'actualité. Mehdi ?
Moi, c'est, j'ai voyagé dans plusieurs musiques. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu je ressens ce retour à la musique du pays où j'ai grandi. Donc la musique arabo-andalouse, telle qu'elle est pratiquée en Algérie. Et c'est pour moi une découverte, une redécouverte, je dirais, extraordinaire. Et ça, je suis tellement content de revenir à cette source et de m'amuser encore plus.
Bien. Donc dans votre musique, on entend à la fois quelque chose de très ancien et de très moderne. Comment vous trouvez cet équilibre entre la mémoire et la création ? Parce que, enfin, il y a de l'électro, il y a des machines, il y a une troisième personne avec vous. Et voilà, comment cet équilibre, parce qu'il est parfait, quoi.
Mon idée de départ, que je poursuis depuis des années maintenant, c'était de comment réinterpréter ou réadapter un petit peu cette musique à ma façon. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu chanter ce répertoire tel quel, à la façon traditionnelle, avec l'orchestre traditionnel. Et j'ai longtemps cherché, j'ai tâtonné. J'ai croisé d'autres musiciens qui m'ont fait des propositions. Et puis un beau jour, moi, j'ai rencontré Nouba Nova volume 1 que Mahdi Haddab a fait avec Hamdi Bennani, qui est un grand chanteur de Malouf de Annaba, donc de l'Est de l'Algérie. Et donc ça s'est imposé à moi très, très naturellement, parce que je me suis dit, voilà ce que je cherche depuis 20 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même ancré dans la tradition avec un grand T, c'est-à-dire le sens de la tradition, tout ce qu'elle implique, les codes. Même le dogme, n'ayant pas peur des mots, mais qui inscrit ça dans le temps présent, donc dans la modernité. Et donc je me suis dit, pour moi, l'oud électrique de Mahdi, il est tout à fait, il pourrait être ancien, il n'a pas d'époque. Donc je peux très bien le faire accompagner, la musique traditionnelle, aussi ancienne soit-elle. Donc pour moi, ça c'est venu très naturellement. Et en plus, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on se penche vraiment de près sur le texte, la musique. C'est vraiment un travail d'artisanat. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les morceaux d'une nouba et qu'on a plaqué dessus des instruments modernes, type machine, guitare électrique ou d'électrique. Pas du tout. Le travail est venu de l'intérieur et c'est à partir de ce regard, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouba aujourd'hui, avec ces instruments, qu'on a adapté un peu les instruments à cette nouba.
Et Nouba, est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas et les auditrices, est-ce que tu vas en parler, Mehdi ?
Volontiers, volontiers. La Nouba, c'est un programme musical. Et souvent, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Mais une Nouba, c'est un programme musical qui est établi depuis le 9e siècle quand même. Et qui correspond donc c'est chaque heure de la journée. Ou pas, il y a différentes théories. Donc ce programme, il est toujours composé de 5 parties, 5 mouvements qui correspondent à des variations rythmiques. Donc il y a comme dans toute chose, il y a un début et une fin et un final, quoi. Et donc voilà, ces 5 mouvements constituent la Nouba, qui est donc un programme musical. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas bien ni la musique, ni encore moins la musique arabo-andalouse, je me plais à citer que Ziryab, qui est un petit peu l'initiateur de cette musique, au 9e siècle, donc quand il arrive en Andalousie, il ramène un peu le raffinement avec lui. Et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant, que c'est non seulement le père de la musique andalouse, mais c'est aussi lui qui a inventé la notion de entrée plat dessert. Comme ça, au moins les gens comprennent, hein, parce que le ventre, souvent avec le ventre, on comprend mieux. Et effectivement, apparemment à cette époque, on mangeait un petit peu n'importe comment, on mettait un peu tout sur la table et machin, etc. Et c'est lui qui a ramené un peu un peu de l'ordre là-dedans, disant que c'est quand même bien d'avoir une introduction, un développement, voilà. Et finalement, c'est un peu ça le programme musical de la Nouba. Donc, ces cinq mouvements permettent d'avoir une évolution dans la musique, et voilà. Et nous, on a fait un défi sur ce projet, c'est qu'on a voulu garder ce cadre de la Nouba. Et c'est, on dit pas Nouba comme ça, c'est parce qu'on a vraiment voulu garder le cadre de la Nouba. Ces cinq mouvements, et à l'intérieur de ça, on s'est permis des libertés, mais on a gardé ce socle et ce cadre, certes un peu qui pourrait paraître rigide, mais qui finalement nous a permis de nous exprimer pleinement.
Ok, alors justement, la Nouba parle de fragilité, de spiritualité, de sensualité. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à travers votre concert. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au public aujourd'hui à travers cette relecture ? Est-ce qu'on peut parler d'une relecture ?
On peut parler d'une relecture, mais ce qui est important dans la Nouba, en plus de la musique, c'est bien sûr la poésie. Et il faut savoir que dans la poésie arabe, il y a une intrication entre profane et sacré. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Selon l'angle qu'on prend pour interpréter ce texte, ça peut être profane ou sacré. Donc, il n'y a pas la poésie sacrée d'un côté, la profane d'un autre côté. C'est-à-dire qu'une rose peut être interprétée comme une rose, tout simplement, par quelqu'un, par le symbole de quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Et ce qu'on voudrait montrer déjà avant de transmettre, c'est la beauté et la richesse de cette musique, parce qu'il y a plein de gens en fait qui découvrent la Nouba par Nouba Nova, c'est-à-dire que c'est une musique qui reste très peu connue en dehors de son terreau, donc le Maghreb. Et donc mon désir en tout cas à moi, c'est de montrer la richesse des textes, le raffinement aussi dans les mélodies et puis dans les compositions et dans la construction même, cette évolution qui nous pousse à réfléchir aussi. L'évolution musicale, c'est aussi le miroir de l'évolution dans la vie. Donc c'est tout ça, je pense, que la Nouba véhicule et qu'on aimerait partager.
Merci. Donc interpréter la manière très poétesse, enfin, c'est toi qui écris les textes?
Alors c'est des textes anciens qui viennent d'Andalousie. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette musique arabe-andalouse, parce que arabe, car les textes sont en langue arabe, et composés par des poètes andalous. Donc ce ne sont pas mes textes, donc c'est des poésies de poètes andalous qu'on réinterprète encore aujourd'hui, en fait, et que toutes les écoles de musique arabe-andalouse partagent, du Maghreb et du Moyen-Orient aussi.
Mehdi, ton oud est électrifié, presque mutant. À quel moment tu as senti que tu devais faire basculer cet instrument vers autre chose ? Moi, je te définirais, si je peux me permettre, comme moi, j'ai le Santana d'Algérie, si je puis dire.
C'est marrant. On me dit le Jimi Hendrix du oud, le Santana. Je prends tout. Ce sont des gens que j'adore. J'adore Santana. C'est assez marrant parce que moi, quand je me suis mis en oud, à un moment donné, j'ai décidé de l'électrifier par besoin technique. parce que sur scène c'était difficile de faire, c'est un instrument qui est difficile à sonoriser parce qu'il est un peu bas, il est un peu, c'est pas un instrument qui est criard, donc c'est difficile à mettre en valeur, et puis surtout il a sa caisse qui résonne, et quand on est sur scène avec d'autres musiciens, en fait il invite tous les musiciens dans sa caisse, donc du coup c'était difficile à sortir, et les gens me disaient c'était super le concert mais on t'a pas entendu. Alors là, je me suis dit, ou j'arrête cet instrument, ou je l'amplifie. Et au départ, c'était un oud classique que j'ai rempli de plastique, de tissu, pour bloquer le son et permettre d'avoir un son plus fort. Ça a commencé comme ça. Et puis après, comme moi j'ai grandi en Algérie, qu'en Algérie je faisais du rock, je suis revenu à ma culture rock. Et là, j'ai retravaillé, parce que faire du oud électrique, c'est une chose, mais il faut... l'électricité a une histoire et a une culture. Juste, on ne branche pas juste un oud et on se dit « Ah tiens, on va jouer électrique ». Il y a, moi je suis justement amateur des grands guitaristes de l'époque, comme Santana, comme Jeff Beck, comme d'autres, et tant d'autres, Johnny Guitar Watson, tout ça. Et cette électricité-là, elle a une histoire. Je l'ai aussi apprise et je l'ai intégrée dans mon jeu. Et voilà, et j'ai appris autant le oud que l'électricité.
Ok, mais en tout cas, ça a été très très difficile pour moi de rester assise quand même hier soir. Hein. J'avais envie de me lever, de danser, et le fait de rester assis, vous aussi, vous étiez dans les rythmes. Y a aussi quand même cette tradition d'être assis avec vos instruments, malgré le rythme, malgré le... parce que... vous pouvez tout à fait vous imaginer, on peut tout à fait vous imaginer debout. Mais voilà, il y a ce côté justement, avec votre posture aussi, j'imagine que c'est choisi.
Oui, moi je suis assez content pour une. Moi j'ai beaucoup joué debout, c'est parti aussi de la révolution du oud électrique, c'était aussi de me permettre de jouer debout. Donc j'ai fait une grande partie de ma carrière debout. Et je suis assez content de revenir à quelque chose d'assis, parce que quelque part aussi, quand on est assis, on va chercher une autre énergie. Et ça, c'est pas parce qu'on est assis qu'on fait moins de son. Et donc, je trouvais ça intéressant dans ce projet. Parfois même, on nous le reproche, on dit « ça serait bien que vous soyez debout ». Moi, je suis assez content de ça et je le défends, parce qu'on est plus intérieur quand on est assis et on a envie de sortir quelque chose d'encore peut-être plus profond. Donc voilà, moi j'apprécie cette idée-là. On n'est pas là, c'est pas une proposition artistique pour faire danser les gens. Et on est
même si ça donne
envie. Mais chacun libre de faire ce qu'il veut. Nous en tout cas, c'est dans cette position qu'on arrive à envoyer cette musique.
C'est une autre énergie, Myriam, tu veux?
Je suis d'accord avec lui. En fait, moi j'ai une contrainte technique par rapport à ça. Donc comme je joue de la cuitra, donc je ne peux pas me mettre debout, même si je préfère chanter debout. Mais finalement, c'est une posture aussi habituelle pour moi et qui ne m'empêche pas, comme Madi, d'envoyer l'énergie qu'il faut et puis l'intention qu'il faut.
C'est notre énergie, hein. Voilà, une énergie différente. Je vais vous poser une dernière question. Donc, le fait d'être là à Marseille, de jouer pour ce festival, voilà, dans ce contexte, qu'est-ce que vous voulez dire, hein?
Moi j'ai toujours l'image de Marseille quand je suis arrivée la première fois à la gare Saint-Charles et que j'ai vu le grand escalier. Je me suis dit mais ça ressemble beaucoup à un quartier populaire à Alger, Bab El Oued, et même l'odeur, parce que à la limite l'architecture ça se comprend qu'il y ait des similitudes, mais l'odeur. Et donc je pense que Marseille est un port, ça a toujours été un port d'échange, d'attache pour plein de gens, et que c'est plutôt logique que c'est un festival comme Babel qui invite plein de gens d'univers différents et puis de contrées différentes se passe à Marseille. Voilà. Donc je pense que là, c'est la ville idéale un peu pour se rencontrer et puis aussi proposer quelque chose qui est entre la modernité, la tradition, hier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce dont on a hérité.
Et comment on avance et qu'est-ce qu'on fait avec tout le monde, ouais, en vivant sur la même planète.
Oui, Marseille, ce qui est comme on dit, la cité phocéenne, et c'est plus de 2000 ans d'histoire, c'est ça. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'aime bien qu'il y ait cette dimension, surtout dans la musique aussi qu'on fait, qu'il y ait cette dimension temporelle assez incroyable. Donc, c'est une belle résonance. En tout cas, moi, je suis... Et puis, voilà, on se retrouve souvent à Marseille, finalement. Enfin, moi, j'y suis souvent. Je n'y habite pas, mais j'y suis très souvent. Donc, c'est un signe.
Vous êtes chez vous.
Oui.
Vous êtes chez vous, mais c'est vrai que c'est une ville attachante et une ville monde. Et moi aussi, je me suis jamais sentie aussi bien de chez moi qu'à Marseille. Donc, longue vie à Nouba, Nova 2, à vos projets. Je vous remercie infiniment.
Et Marie-Louise, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Marie-Louise, merci beaucoup.
Merci à vous et bonne continuation et bon festival. Merci. Et voilà, 3 jours qui ressemblent à un voyage. 3 jours en immersion dans cette véritable fourmilière qu'est Babel Music XP. Entre la friche Label de Mai, la Cité de la Musique de Marseille, l'Espace Julien, le Makeda, la plateforme, des visages, des sons, des histoires qui se croisent et se répondent. Un immense bravo à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Vous qui défendez une musique vivante, une musique qui raconte, qui témoigne, qui porte les cultures et les identités, et qui, surtout, nous rassemble. Et merci aux artistes pour votre générosité, votre sincérité, pour ces moments suspendus, ces vibrations, ces voyages que vous nous offrez. Vous êtes les passeurs d'émotions, les voix du monde. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on retient. La musique comme un langage universel, un espace où l'on se reconnaît, où l'on se rencontre, où l'on fait lien. Merci à toute l'équipe du festival pour l'accueil. Et merci à Sarah et Fabien, des passionnés, des créateurs d'émotions, des artisans de ces moments de partage et de bonheur. C'est exactement ça, l'ADN de Malou Musique. Mettre en lumière les histoires derrière les sons, créer du lien, faire circuler les émotions et rappeler que la musique est avant tout une aventure humaine. À très vite pour la suite sur les ondes de Fréquence Mistral et un grand merci à la radio pour sa confiance et son soutien.
Le là-haut de l'île. خيوط مشتمة الريح اللي تستعد وخيوط مشتمة الريح اللي تستعد